voix nue. Ce soir encore, Philippe Bresson rencontre Ariel Dombal. Tout de suite, d'un masque, l'autre.
Nous évoquions en ouverture de cette série d'émissions qui vous est consacrée, Ariel Dombal, ces mots de Nietzsche à propos du masque. Tout esprit profond a besoin d'un masque, dit-il, et il rajoute. Plus encore, un masque pousse continuellement autour de tout esprit profond, du fait de l'interprétation constamment fausse de toute parole, de tout pas, de tout signe de vie émanant de lui. On devrait honorer davantage la pudeur que la nature met à se cacher derrière l'énigme et les incertitudes. Peut-être la nature est-elle une femme qui a ses raisons pour ne pas laisser voir ses raisons.
Comme c'est joli, c'est une merveille, comme c'est juste.
Qu'est-ce que représente pour vous, Ariel Dombal, le masque en tant qu'actrice et personnalité publique?
Eh bien, je pense que nous avançons tous masqués, et puis notamment les acteurs, parce que les acteurs, bon, depuis le théâtre grec, pour aller vers la vérité, on se masque souvent. Et l'idée de cette transformation, transmutation dans les personnages est un masque aussi. Et puis, il y a différents types de masques. Il y a aussi qu'on avance masqué dans la vie pour essayer de ne pas être le cœur mis à nu 24 heures par jour, et donc de se protéger et de mettre une petite armure. Le masque, c'est aussi ça.
Je crois qu'une croyance ancienne au Mexique veut que l'on soit plus fort masqué.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous savez, le masque au Mexique, il y a les fameux danzantes qui sont incroyables et qui sont masqués. Et ils dansent comme ça, comme endiablés. Et ils sont masqués, ils font peur. Et puis, il y a le masque de fer, il y a Zorro qui est masqué. Et puis, il y a aussi au Mexique les merveilleux luchadores de la lucha libre qui sont tous masqués.
Les catcheurs.
Les catcheurs. Et ça, c'est des masques étonnants. Et il y a El Santo qui a été... Et je lui rends hommage justement dans un de mes albums, qui a été l'homme masqué pendant 30 ans. Alors c'est des héros populaires qui font le bien dans leur quartier et qui sont là aussi à la limite du personnage fantastique. J'aime beaucoup ces luchadores, la lucha libre. Et c'est un théâtre, c'est comme du théâtre grec. Il y a le méchant, le gentil et la foule qui s'excite complètement sur la lutte de ces deux hommes masqués et qui représentent des vertus. Alors, il y en a un qui est la colère, l'autre qui est le dédain, le troisième qui est la perversion, et puis le quatrième qui est justement la bonté, la salvation, et ils s'affrontent, et les gens sont absolument en transe.
Je crois que c'est Roland Barthes qui parle de vertu de l'excès à propos du catch.
Oui, absolument. Roland Barthes, si on relit mythologie, il nous manque, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a pensé tout et qui nous aide à vivre.
Le monde où l'on catch.
Oui, le monde où on catch.
Très beau texte à relire.
Oui.
Vous avez créé en 2003 le personnage de Dolores Sugar Rose, un masque composite de plusieurs influences ou héroïnes, autour d'une certaine idée de la féminité des années 40-50. Qui est cette Dolores, Ariel Dombal?
Alors, Dolores Sugar Rose, c'est en effet un personnage dans lequel je me suis glissée pour avoir la liberté d'entrer dans toute une iconographie et dans toute une mystique d'une certaine femme qui se situerait là dans ces années, entre les années 30 et les années 50, où il y avait comme ça un sommet de beauté de la représentation féminine, et en même temps de ces femmes mexicaines tout en fleurs, en volupté et en tragédie, et qui chantent des chansons d'amour. Et voilà, j'avais besoin de ce personnage pour entrer complètement dans l'album et quand
c'est
ça...
une vampe.
Oui.
Une vampe dramatique, un petit peu.
Voilà.
Une silhouette Vargas.
Voilà, une silhouette Vargas, peut-être. Oui. Une silhouette Vargas, une vampe, oui, on peut dire ça. Mais aussi avec quelque chose de plus tendre, de plus candide. C'est pas la femme fatale, c'est pas Marlène Dietrich.
Et je me demandais justement si ce prénom, Dolores, renvoyait aussi à la Lolita de Nabokov, Dolores Haas.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr,
voilà
bien sûr.
L'innocence, entre guillemets,
oui, c'est
de
ça.
Dolores.
C'est ça. Mais je trouve que si la figure d'une femme a perdu son innocence, alors elle a perdu sa beauté. L'innocence, c'est une des plus belles vertus, je trouve.
Alors, d'album en album, ce masque, Dolores, est devenu pour vous la figure d'un immense succès. On se souvient d'Amor à mort en 2004, explorons les tubes d'Amérique latine d'avant-guerre. Alors, il y a des tubes magnifiques sur ce disque, oui. C'est-à-dire des standards latino-américains inoubliables, comme Amor à mort, Bésame mucho, mm-hmm. Quizás, mm-hmm. et d'autres.
Oui.
Est-ce que je peux vous demander d'en fredonner un?
Amapola, lindissima amapola, será siempre tu alma, tuya mía. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Bon, mais ça, c'est une chose comme ça, très, d'une certaine époque. La dulzura mexicana, el canto de amor.
Quelles sont les chanteuses latino-américaines qui vous inspirent?
Oh, il y en a beaucoup. Mais en même temps, moi, j'ai un culte de la chanteuse, voilà, de Kirite Kanawa à Ninon Sevilla et de Maria Callas à...
Emma Sumac, peut-être.
Emma Sumac aussi, que j'ai chanté au Châtelet, dont j'ai chanté, voilà...
Elle a des tessitures impressionnantes, des graves profonds et des aigus de soprane.
Oui, oui, des personnages étonnants. Des personnages étonnants. Victoria de Los Angeles aussi, que j'adore. Et... mais aussi Kate Bush, mais aussi Skinhead O'Connor, et aussi beaucoup de contemporaines. J'adore les voix féminines, et j'écoute toujours beaucoup de voix féminines.
On retrouve Dolores sur l'album C'est si bon, qui est un disque hommage à l'adolescence new-yorkaise de votre mère. Je crois qu'elle chantait.
Elle jouait de la guitare, oui, et elle chantait.
Que chantait-elle? Mmh.
Elle chantait La Barca de Oro, elle chantait toutes les choses de Fitzgerald, elle chantait aussi, elle aimait beaucoup tout ce, all the Broadway melodies et tout ce côté Sinatra et Julie London et les Andrew Sisters et tout ce qui avait constitué son adolescence à New York. Et ça, c'était crossover. Des choses latino-new-yorkaises.
C'est toujours Dolores Sugar Rose qui vous mène jusque sur la scène du Crazy Horse, en 2007, je crois. Vous vous y faites effeuilleuse, menace de revue. C'était un pari plutôt audacieux. Et en même temps, je trouve, quand on regarde votre parcours, que nous effeuillons depuis quelques jours, c'est pas si étonnant que ça. C'est très cohérent, je trouve.
Eh bien oui, à mes yeux, ça l'est. On m'a demandé donc de chanter. On m'a invitée en tant que chanteuse... au Crazy Horse, et c'était entrer là aussi dans un monde d'idéal féminin, avec une esthétique très précise, et toutes ces danseuses qui ont été vraiment pensées par un homme qui adorait les femmes, Monsieur Bernardin. C'est comme des petites gracieuses poupées, mais très performantes dans la danse, et qui sont habillées de lumière. Et évidemment, c'était très difficile, parce que moi, je chantais live, mais c'était pour moi des performances de d'actrices et de danseuses. Alors, justement, il y a cette idée du corps et la nudité. Et la nudité est toujours très difficile à manier au cinéma. et parce que les corps, c'est quelque chose, et notamment la nudité, quelque chose de tellement fort qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Mais dans le contexte du Crazy Horse, on est tellement magnifié par les lumières et on est comme des déesses, littéralement. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Et moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. J'ai le culte du corps dans profondément. C'est-à-dire que, comme disent les bouddhistes, il faut aimer son petit véhicule.
Et vous le travaillez, cet instrument, quel
oui,
corps ?
Oui, parce que j'ai fait beaucoup de danse pendant très très longtemps et je pense que mes premières grandes admirations, c'était pour les danseuses. Quand je voyais les danseuses des classes supérieures sur des pointes, je trouvais que c'était un idéal. En tant que petite fille, je me disais ça, c'est un idéal de beauté. La danseuse, la grâce, l'idée de se mouvoir. Et puis, j'ai eu une enfance très sportive. Donc avec ce père qui a fait que je n'ai peur de rien. Et donc, je suis très pudique, comme tout le monde. Mais pour moi, la nudité, c'est quelque chose, en même temps, d'admirable.
Vous êtes souvent
peinture,
apparue nue sur des photos ou dans des films. Je pense notamment au film de Terayama, Les fruits de la passion, mais aussi à Chassé croisé, où vous rendiez hommage à Duchamp.
Oui, c'est ça.
C'est
oui,
ça.
Oui. La mariée mise à nu par les célibataires. Et puis j'aime beaucoup le nu en peinture. J'aime les nus académiques. J'adore le nu en photographie aussi. Ça peut être de la plus grande des beautés.
Vous avez posé nu pour Harcourt.
Pour Harcourt et puis pour lui et puis pour Playboy.
Oui.
Voilà. Mais toujours de manière, avec des grands photographes et de manière subtile.
La nudité ne serait-elle pas, Ariel Dombal, le masque absolu ?
Vous, votre émission s'appelle La Voix Nue. Alors, c'est une voix masquée que la voix nue ?
C'est une bonne question.
Non, je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'il faut aimer son corps. Et moi, je l'aime notamment en tant que nageuse. Je suis presque vraiment quelqu'un d'athlétique dans l'eau. Je nage depuis toujours, j'ai beaucoup nagé dans l'océan Pacifique et je continue à nager de manière absolument dans la volupté absolue. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où on est entre ciel et terre, on n'a plus de pesanteur et on est lié à la matière qui est l'eau. Et on devient un batracien, on devient une autre espèce et on oublie son identité, on fait partie du monde tout à coup. Simplement partie du grand tout. Et j'adore ces moments de natation. Donc ça me sauve. C'est vrai que les gens me disent toujours « Ah, mais tu es incroyable, tu n'as pas changé. » L'eau, c'est le miracle.
J'imagine qu'il faut se sentir protégé, avoir l'assurance d'être réinventé par la vision de l'autre, par son regard, pour pouvoir s'abandonner nu face à l'objectif.
Bien sûr, bien sûr.
On revient à la politique d'admiration que nous évoquions.
Voilà, voilà.
Pour oser, pour se dépasser.
Voilà.
Il faut aimer.
Exactement. S'il y a un regard aimant qui se pose sur vous, tout va bien.
Mais le masque, Ariel Dombal, c'est aussi ce qui permet à une actrice connue de séparer l'image publique, fantasmée, de la sphère privée, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Alors, votre rencontre avec votre mari, Bernard-Henri Lévy, n'est pas du cinéma, mais elle rejoint le cinéma tant elle est romanesque. J'aimerais que vous nous la racontiez. D'ailleurs, je crois que Truffaut et Fellini y sont. Un peu, pour quelque chose.
Non, en réalité, nous nous sommes rencontrés et c'est comme ça une chose, probablement c'est le miracle de la vie, une attraction totale, immédiate, ça s'appelle le coup de foudre, voilà.
Oui, mais en plusieurs scènes, je dirais, notamment face à une photo, une émotion qui est la vôtre, quand vous découvrez la barbarie à visage humain. Le premier livre de Bernard-Henri Lévy, c'est cela, non ?
C'est ça, et pour moi, c'est le visage du Christ. Et j'ai comme une sorte de révélation. Je me dis, cet homme, il n'y a que moi qui puisse le sauver. C'est plutôt de cet ordre, de l'éblouissement absolu et de l'idée que je sais que c'est la personne qui va me révéler et que je vais révéler. Voilà. Et puis, notre coup de foudre permanent dure depuis très longtemps. Et ça, c'est de l'ordre de je ne sais pas, du miracle.
Revenons à Dolorès. Nous avons parlé de Dolorès en chanson, mais vous l'avez aussi incarné sur scène. Je pense à vos différentes collaborations avec Jérôme Savary, par exemple.
Oui, en réalité, bon, avec Jérôme, qui est vraiment un personnage tellement merveilleux du monde du musical, c'est probablement vraiment un des plus grands, qui a su en plus faire entrer sur scène le musical doublé du cirque, doublé d'un monsieur loyal, doublé de la danse, doublé de la gaieté, doublé de l'ironie. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui à l'Opéra Comique. Je suis restée longtemps dans La Belle et la Petite Bête. Et puis après, j'ai fait avec lui aussi L'Ange Bleu, une Marlène Dietrich dans Don Quichotte contre l'Ange Bleu. Et il m'a beaucoup appris. On a tellement ri. Et puis c'est une merveille pour le métier, parce que c'est tous les soirs chanter, danser, et non pas du tout les comédies musicales formatées avec des bandes son. Là, c'est vraiment du live, on chante et on danse tous les soirs, et c'est jubilatoire.
Marlène Dietrich, mais aussi Lana Turner, cette fois-ci avec Alfredo Arias.
Voilà, alors Lana Turner...
El Tigre.
Alors, Lana Turner, c'est aussi un personnage fabuleux à incarner. C'est quand même cette figure angélique du cinéma, cette grande gloire hollywoodienne qui finit par tuer son amant, qui est un personnage très incernable.
Et puis c'était aussi sur une musique de Bruno Coulet.
Oui, ça c'était...
Le grand compositeur de Microcosmos notamment, et de la plupart des musiques de films de Benoît Jacquot.
Oui, c'était formidable. Ça, c'était une expérience très difficile parce que c'était vraiment une création au Théâtre du Rond-Point. Et Bruno Coulet, on était tous les soirs accompagnés d'un petit quatuor. Et Bruno est d'une subtilité de création musicale incroyable. Et puis Alfredo, on va toujours très loin avec lui. C'est un grand metteur en scène. C'était bien. Ouais.
En 2007, le ministre de la Culture vous a décoré de la Légion d'honneur et a rendu hommage à tous ces visages, je dirais tous ces masques, que vous avez bien voulu offrir à la grâce, à la beauté et au talent. Ça représente quelque chose pour vous, cet hommage ? Est-ce que ça vous fait plaisir ?
Écoutez, quand j'ai appris ça dans Le Monde, j'ai cru que c'était une blague. J'ai cru que je recevais la noix d'honneur, vous savez, le truc du canard enchaîné. Et puis, je me suis dit, mais Pourquoi ? Et après, j'étais mais absolument émue, bouleversée, surtout quand, au ministère de la Culture, je suis entrée dans cette pièce et que les gens avaient organisé, tous mes amis étaient là. Et tout à coup, recevoir cette médaille, oh, c'était une émotion intense. Je trouvais ça pas du tout dérisoire. Et moi, ça m'a rassurée, ça m'a plu, ça m'a fait tellement plaisir, c'était merveilleux.
Est-ce que vous connaissez ce poème de Baudelaire, Le Masque, dédié au sculpteur Ernest Christophe, sculpteur du 19e? C'est une sculpture, Le Masque ou la Comédie humaine, que l'on peut voir au musée d'Orsay, une sculpture à deux visages. Le premier, serein, souriant, et juste derrière, la tête renversée, avec une expression de douleur. On essaie ?
Oui. Contemplons ce trésor de grâce florentine dans l'ondulation de ce corps musculeux. L'élégance et la force abondent, sœur divine, cette femme, morceau vraiment miraculeux, divinement robuste, adorablement mince, est faite pour trôner sur des lits somptueux et charmer les loisirs d'un pontife ou d'un prince. À cet être doué de tant de majesté, vois quel charme excitant la gentillesse donne. Approchons et tournons autour de sa beauté.
Ô blasphème de l'art, ô surprise fatale, la femme au corps divin promettant le bonheur, par le haut se termine en monstre bicéphale.
Mais non, ce n'est qu'un masque, un décor suborneur, ce visage éclairé d'une exquise grimace, et regarde, voici, crispée atrocement, la véritable tête et la sincère face, renversée à l'abri de la face qui ment.
Mais pourquoi pleure-t-elle ?
Elle pleure, insensée, parce qu'elle a vécu et parce qu'elle vit, mais ce qu'elle déplore surtout, ce qui la fait frémir jusqu'aux genoux, c'est que demain, hélas, il faudra vivre encore, demain, après-demain et toujours comme nous.
Ce personnage que décrit Baudelaire m'évoque un personnage que vous avez joué, dont nous parlions il y a quelques jours, dans la pièce de Kleist, Cunégonde de Turenne. Vous comprenez pourquoi ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Quelle jolie analogie d'avoir mis ce texte en miroir à cette Cunégonde redoutable.
Mais le masque renvoie aussi au double. L'acteur n'est-il pas précisément celui qui montre jusqu'au monstre, au-delà des apparences ?
Bien sûr, le théâtre est son double d'Antonin Artaud, qui est une petite bible, et puis aussi les textes de Diderot sur « il faut tenir, avancer avec une tête de fer, main à main avec son personnage ». Et c'est cette espèce de dualité entre le moi et le surmoi, l'abandon et la technique, qui fait qu'on arrive à trouver ce point oméga du juste.
Oui, et deviennent tous ces personnages que vous avez incarnés ? Est-ce qu'ils restent accrochés à vous ou est-ce qu'ils disparaissent eux aussi ?
Ça dépend, parce qu'il y en a qui laissent des marques si profondes qu'ils continuent à vivre avec vous. J'ai beaucoup aimé jouer Sissi l'impératrice. C'est un rôle qui m'a absolument bouleversée et qui avait aussi...
Pour quelle raison ?
Pour la raison de la mort, de l'assassinat, la mort que j'ai dû jouer avec ce poinçon enfoncé dans le cœur par un anarchiste Lucchini, un anarchiste italien qui tue Sissi, par la beauté de cette légende, de cette femme tellement fêtée, tellement belle et qui voulait toujours aller dans un au-delà de l'être et qui a aimé tellement puissamment la nature, qui a aimé le sport, qui voulait battre les hommes en montant à cheval, qui est la première qui a fait installer aussi une salle de bain, qui a eu ce culte du corps et qui a été un très grand personnage romantique. Et je l'aime. J'ai aimé jouer Milady aussi. Souvent, je pense à l'esprit vengeur de Milady, ces femmes très combattantes qui vont plutôt jusqu'au bout et l'excès dans le crime. Mais ça m'avait bouleversée de jouer ça. J'ai aimé aussi jouer Miroslava parce que ça me faisait penser à ma mère, qui est cette actrice tchèque, grande star, l'unique star blonde mexicaine. Et qui s'est suicidée après un chagrin d'amour. J'ai vécu ça très, 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 très intensément. Et je la garde en moi, je la porte. Et puis, tous les personnages qui chantent, c'est moi, dans les diverses incarnations. C'est moi, les gens que je fais pleurer quand je chante. Je me rappelle qu'à Lyon, à l'opéra, tout à coup, j'ai vu des scintillements dans la salle et les gens pleuraient parce que je chantais « El preso numero 9 » et que je chantais « Paloma ». Ça bouleversait et il y avait une sorte de partage, de communion, de quelque chose d'incernable et d'extraordinaire. Alors on se sent au sommet de quelque chose. Et ça, on le porte toujours avec soi, parce qu'on l'a vécu et c'est là.
Vous avez toujours cette mélodie en tête ?
Oui. Dicen que por las noches no más se iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se iba en puro llorar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 cantaba. Ay, 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 gemía. Las piedras jamás, paloma, que van a saber de amores.
Merci beaucoup. Avant de vous quitter, j'aimerais vous poser une question. Une dernière question. Le masque, c'est aussi une manière de se parodier, jusqu'à la caricature parfois. Quelle serait-elle, cette caricature de vous-même, Ariel Dombal ?
Oh, je crois qu'on m'a beaucoup caricaturé en poupée Barbie.
Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça vous agace ?
J'ai adoré ma poupée Barbie quand j'étais enfant. Ensuite, me réduire à cette petite figurine m'a beaucoup fait souffrir quand j'ai essayé de commencer à faire des choses. Et puis après, je me suis dit que toutes les petites filles aimaient la poupée Barbie et que c'était plutôt flatteur et qu'il fallait prendre gaiement. Voilà.
De cette rencontre de Philippe Bresson avec Ariel Dombal. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer, prise de son Raymond Albouy. À voix nue, ce podcast et se réécoute sur franceculture.fr. Dès lundi, une nouvelle rencontre.